Vous écoutez France Culture.
Une vie, une œuvre, les rediffusions d'été, c'est tout de suite. Igor Stravinsky, 1882-1971. Une vie, une œuvre pour ses rediffusions a décidé de jouer au jeu des pères. Père d'amis ou d'amoureux, un compère le samedi et sa moitié le dimanche. Alors aujourd'hui, Une vie, une œuvre, c'est l'histoire de celui qui était musicien et qui a composé un ballet qui a fait scandale, Igor Stravinsky. Et demain, ce sera son ami et son impresario, Serge de Diaghilev. Quand on scrute les photos, au départ, on croit voir toujours la même. Un homme au visage anguleux, aux yeux écarquillés et cerclés par des lunettes rondes, un long nez, des cheveux rares, une moustache fine, un homme à l'air sérieux, sévère, voire inquisiteur. Et puis au fur et à mesure, ce visage s'anime. Il rit, il cabotine, il pose aux côtés de Nijinsky, il adopte les lunettes noires, et Stravinsky finit par s'affaler dans de profonds canapés, arbore un très chic fume-cigarette, pose dans une gondole et porte des costumes croisés. On le voit même une fois, face profil, en tôlard, posé avec sa plaque d'identification sous le visage, il vient de malmener l'hymne américain. C'est l'image d'un musicien à la carrière internationale et aux itinéraires dictés par l'histoire. Il finit à Hollywood, couvert de gloire mais en chaussettes blanches dans de grossières sandales, il peut tout se permettre. Réécoutons le documentaire de Laetitia Lequet, réalisé par Jean-Claude Loiseau.
J'interpelle Igor Stravinsky. Je lui dis, cher Igor,
Jean-Claude Galota,
tu as fait ci, tu as fait là.
Chorégraphe.
J'essaye de dialoguer avec lui. Je lui rends hommage en même temps. Pendant ce solo. Et puis, la fille s'écroule. Tchac. Et là, on voit l'image de Stravinsky. Et là, on entend la musique du Sacre du Printemps. Tous les danseurs se lèvent, viennent s'asseoir sur les petites chaises. Et là, il y a l'attaque forcée du Sacre du Printemps.
Dans le room, elle compose le Sacre du Printemps.
François-Xavier Roth, le Sacre du Printemps reste la partition à laquelle Stravinsky est associé. Aujourd'hui, pour un chef, que représente cette œuvre ?
C'est une pièce très difficile qui aujourd'hui, bien sûr, c'est moins difficile qu'il y a 100 ans, puisqu'aujourd'hui on a le recul et la connaissance de la grammaire de Stravinsky, mais ça reste toujours une sorte de voyage initiatique un peu fort quoi, pour un chef. Quand on a ce fameux accord au début des augures printanières qui est répété, martelé, d'ailleurs au chiffre 13 de la partition, on est en 1913, oui, on est dans quelque chose qui est même plus loin qu'une radicalité extrême, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est dénué de sens, tellement c'est fort, et c'est quelque chose qui, dans les salles de concert à Paris ou en Europe, bien sûr, ne pouvait pas, ne s'est jamais fait entendre.
J'insiste, c'est la première du Sacre du Printemps, et ce qui est curieux, c'est que tout le monde sifflait, huait, se battait, et qu'aujourd'hui, on ne trouve plus un seul de ces combattants. Personne n'avoue avoir été parmi les siffleurs.
Jean Cocteau.
Et comment expliquez-vous ça ?
Eh bien, la musique n'avait pas encore fait son mouvement fauve. Et tout à coup, Stravinsky est arrivé avec une musique qui déracinait.
Et comment il a réagi, Stravinsky, à
il a réagi avec beaucoup de stupeur, parce que il avait travaillé au Sacre, Diaghilev l'avait fait travailler au Sacre avec beaucoup d'amour, et il ne se rendait pas compte qu'il produirait ce scandale.
Pierre Monteux.
Igor Stravinsky.
Pierre Monteux dirigeait l'orchestre. Qui jouait vraiment bien après beaucoup de répétitions.
Et
il continua de diriger malgré le bruit.
Et Nijinsky
était là, sur une chaise comme celle-ci. Et il conduisait le corps de ballet. 7, 8, 9, 11, 14, 18, 19, 20, 30. Il comptait les mesures chorégraphiques.
Le Sacre de Nijinsky, c'est quelque chose qui est extrêmement, je dirais, archaïque. C'est ça qui est très beau.
Le chorégraphe Angelin Prejlocage.
C'est vraiment comme aller chercher au fond des cavernes, presque, des signes, des symboles et des postures. Et on voit bien que c'est des choses qui sont très... les danses sont très en silhouette.
Il y a dans le Sacre une violence, une puissance
André Lichke.
Qui correspond à ce qui est dans l'air du temps. On arrive dans une époque hyper violente. On est à la veille de la Première Guerre mondiale, à peu d'années de la Révolution russe. Je pense que tout ce qui est dans l'air du temps se cristallise dans ce petit homme chétif qu'est Stravinsky. C'est ça le paradoxe. Vous savez, moi je compare Stravinsky au géant mythologique hanté, vous savez, qui touchait la terre et reprenait une force colossale. Stravinsky touche la terre russe de ses ancêtres dans cette antiquité intemporelle du Sacre du Printemps, et il devient un surhomme musical en quelque sorte.
Il y a quelque chose de très de l'ordre du chaos quand on entend ça. C'est un magma de son, effectivement, quelque chose dans lequel on a l'impression que les choses arrivent presque par accident ou par une sorte d'entropie. Alors que si on regarde la partition, c'est extrêmement ciselé. C'est fait avec une telle maîtrise que c'en est étonnant. Parce que le résultat, c'est de l'énergie, en fait, presque.
C'est la violence, aussi ce foisonnement des rythmes qui se répercute aussi avec le jazz qui devient de plus en plus présent dans le monde musical à ce moment-là. On a dit que c'est du jazz à la russe avec ses rythmes constamment décalés, heurtés, irréguliers, syncopés. Donc le sacre, c'est une sorte de creuset où sont venus se déverser toutes les pulsions de l'époque.
François-Xavier Roth, Stravinsky disait qu'il avait une vision avant de commencer son sacre, la vision d'une danse sacrale avec des vieillards qui entouraient des jeunes filles qui dansaient. Galotta, lui, dans sa chorégraphie, met au début des chaises de jardin d'enfants retournées par terre. Pina Bausch a travaillé avec la terre. Prejlocage fait danser une femme nue. Quelle est votre vision du sacre ?
Ah, ça, je crois que ma vision du sacre, elle dépasse déjà entièrement, et je m'en excuse auprès des chorégraphes, la danse. Bien sûr, ce qui est passionnant pour un musicien comme moi, c'est de voir comment des chorégraphes si différents à travers depuis 1913 ont pu donner une lecture tantôt chambriste, tantôt monumentale, tantôt violente ou alors primitive. Ça, c'est très inspirant pour un chef d'orchestre. Et puis aujourd'hui, je vais travailler avec un chorégraphe hip-hop, donc on va être encore sur un autre vocabulaire avec Farid Berki. Mais moi, je vois le sacre avant tout comme une œuvre musicale. Vraiment. Cette œuvre, elle a été dans la vie du jeune Stravinsky. Elle est venue très tôt, hein, puisqu'il en parle déjà bien avant 1912 ou 1913. Elle était en gestation en lui-même, et finalement elle est sortie à ce moment-là comme une espèce d'ovni musical. Donc c'est comme ça que je vois le sacre, c'est cette espèce de pierre fondamentale qui va aider à construire une nouvelle musique pour le siècle qui suit.
André Ilitch, que Igor Stravinsky a eu une enfance très particulière, baignée de musique et en même temps marquée par l'absence d'un père qui était une star en fait du monde de l'opéra de l'époque.
Oui, Féodor Stravinsky était basse au théâtre Mariinsky, donc au grand opéra de Saint-Pétersbourg. Effectivement, une vedette, des chanteurs les plus en vue de sa génération, et certainement très préoccupé par sa carrière et par son ego, ce qui est assez normal chez les chanteurs. Et ça ne lui laissait visiblement que peu de temps pour s'occuper de sa famille. Et on sait qu'il n'a jamais manifesté d'affection, d'attention particulière envers Igor, sauf lorsque celui-ci était malade, comme Igor l'écrit lui-même, ce qui est un petit peu mince comme affection paternelle.
Mais du fait de cette profession de son père, Stravinsky est donc souvent à l'opéra. Souvent en concert ?
Oui, dès son enfance, il a assisté au spectacle. Il a même eu le privilège, quand il avait 10 ans, de voir Tchaïkovski lors d'un entracte. Il a aperçu la silhouette de Tchaïkovski dans le foyer du théâtre Mariinsky. Il s'en souvient parfaitement. Bien sûr, donc, il a pu accumuler pas mal de connaissances musicales ça, grâce à ce milieu dont son père faisait partie.
Marcel Marnat.
Il faut bien voir que, adolescent, on l'envoie à Berlin faire des études de droit, etc. Ça n'a rien à voir avec la musique, mais vraiment rien. C'est en revenant à Saint-Pétersbourg, peut-être un peu hésitant sur la carrière à suivre, que, rencontrant le fils de Rimsky-Korsakov, il a envie de développer une tendance qu'il a de ce côté-là, mais Manuel Rosenthal, par exemple, qu'il avait très bien connu, me disait, Stravinsky avait l'étoffe d'être premier ministre, d'être ambassadeur, d'être un homme politique, d'être un écrivain, d'être une quantité de choses, il a été musicien, c'est ce qui l'a emporté, mais il avait plusieurs cordes à son arc, et faut bien voir que, à ses débuts, disons en 1900, il avait 18 ans, il ne sait pas encore très bien.
Enfin, Igor a vécu avec son père par imprégnation plus que par amour. Enfin, il dit à Kraft dans les entretiens de la fin de sa vie qu'il a pas mal souffert de ça d'ailleurs. Et sa mère étant quelqu'un de très dur également.
Bertrand d'Hermoncourt.
Dans sa famille, il était proche d'un de ses frères, son jeune frère. Et ensuite, la découverte de cette famille de substitution, qui était celle de Rimsky-Korsakov, qui deviendra son professeur. Malheureusement, Rimsky-Korsakov meurt très rapidement. Ils sont connus que 4 ans à peu près. Donc il a eu ses cours, ses encouragements. Les premiers concerts de Stravinsky ont été organisés par Rimsky-Korsakov. Il a écrit sa première grande œuvre dont il était fier, qui était une cantate. C'est malheureusement une œuvre qui est écrite pour la mort de Rimsky-Korsakov. Alors ensuite, il y a la rencontre avec Diaghilev, qui est son nouveau père de substitution. Une amitié qui durera une vingtaine d'années.
Avec des disputes, d'ailleurs.
De grandes disputes, d'énormes jalousies de part et d'autre, des questions d'argent, évidemment, il y en a toujours avec Stravinsky. Et avec Diaghilev, d'ailleurs, jusqu'à la mort de Diaghilev en 1929.
Le vrai révélateur, finalement, c'est Diaghilev ?
C'est Diaghilev. Disons que avant Diaghilev, il y a eu ces soirées de musique contemporaine où quelques pièces de Stravinsky ont été jouées, notamment son Scherzo fantastique, qui est inspiré par une lecture de La vie des abeilles de Maurice Maeterlinck. Et c'est en fait ça qui a attiré l'attention de Diaghilev sur Stravinsky pour L'Oiseau de Feu, lequel avait d'abord été commandé à Anatole Liadov, professeur du conservatoire, qui en fait ne s'en est jamais occupé. C'était un homme d'une paresse absolument phénoménale, et c'est grâce en fait à la paresse de Liadov que Stravinsky a récupéré la commande.
C'est évident que l'orchestre de L'Oiseau de Feu vient de Rimsky-Korsakov. Pour une raison très simple, c'est que Rimsky-Korsakov était un orchestrateur, mais absolument génial. Il était capable de faire des musiques rutilantes, magnifiques, de transparence et d'éclat sur n'importe quoi. Donc, il y a cet héritage direct, ça, il n'y a pas de doute. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que la matière de L'Oiseau de Feu, c'est pas du tout Rimsky-Korsakov qui n'a pas fait de ballet de cette dimension, c'est Tchaïkovski. Il y a dans L'Oiseau de Feu une danse parodique des petits cygnes, Personne ne veut s'en apercevoir. C'est Tchaïkovski, simplement c'est du Tchaïkovski tellement mieux orchestré, tellement mieux fait, tellement plus soucieux d'aller vite, de savoir enchaîner les épisodes sans qu'il y ait le moindre flottement, que on a complètement oublié Tchaïkovski et ses grands modèles de ballet russe pour n'entendre que l'oiseau de feu, Stravinsky pur, un peu Rimsky, mais bon.
Oiseau de feu, sacre.
Oiseau de feu, Petrouchka, sacre. Donc trois marches véritablement qui vont faire monter Stravinsky au podium de la musique contemporaine en l'espace de 3-4 ans.
Oiseau de feu, c'est la découverte de l'harmonie pour lui, alors sous l'influence de Rimsky, c'est vrai. Petrouchka, c'est vraiment l'arrivée du rythme et puis d'une vision de la musique totalement, moi je qualifierais d'anti-romantique, c'est-à-dire que la continuité du discours n'a aucune importance. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point important, c'est le fait que la musique n'est plus du tout subjective. Une sorte de vision objective de la musique. Et alors, le sacre va mélanger ces deux facteurs, c'est-à-dire le symbolisme, disons, de l'oiseau de feu, l'objectivité de Petrouchka avec une acuité rythmique et une invention qu'on ne connaissait pas dans ces deux œuvres.
Petrouchka, le sacre, en fait, c'est comme un diptyque ?
Non, ils ont été conçus à peu près en même temps. Petrouchka, c'était un divertissement qui finit tristement. Petrouchka meurt à la fin, meurt d'amour, meurt de... Bon. Et le sacre, c'était une vision assez dans l'esprit post-symboliste du temps en Russie, à savoir 1910-1911, à savoir vision de mages dans les forêts qui font des sacrifices humains, etc., etc. Donc, ça n'a pas un rapport évident quant à la conception. Évidemment, le sacre s'appuie sur les expériences et d'orchestre et d'écriture de Petrouchka pour décanter tout, je dirais, le pittoresque, pour en faire cette espèce de locomotive terrifiante que va devenir le sacre.
Après cette fastueuse année 13, la guerre arrive, et puis surtout la révolution russe. C'est une rupture majeure pour Stravinsky.
Je crois que la rupture était consommée déjà auparavant. Stravinsky, bien qu'étant totalement héritier de cette école russe, n'est pas un patriote dans le sens, je dirais, géographique du terme. Stravinsky est déjà un cosmopolite.
Il a eu de la nostalgie au départ, parce que je me rappelle très bien que
Théodore Stravinsky.
La première révolution, l'an 17, mes parents y ont applaudi de tout cœur, dans l'espoir de quelque chose qui n'est jamais venu. Au contraire, après, il y a eu la révolution d'octobre, leur a fait perdre tout espoir, et ils ont compris que pour eux, le pays était perdu à tout jamais, puis tout ce qu'ils avaient là-bas, leur maison et tout. Mais il s'est habitué à cela et il avait un esprit universaliste qui lui permettait de s'adapter partout. Et il s'est très très bien adapté.
Pendant la guerre de 14-18, Marcel Marnat, Stravinsky est en Suisse.
Stravinsky n'a pas fait la guerre en tant que russe pour une raison très simple, c'est qu'il était chroniquement tuberculeux. Donc il était réformé. Il voit les choses en face, il se dit « Pourquoi je resterai dans un pays en guerre dans lequel plus rien ne fonctionne normalement, tout est suspendu, je m'installe en Suisse, pays neutre, où j'aurai la paix pour travailler. » Alors là, il y a une rencontre fondamentale, mais énorme, une rencontre d'artistes comme il y en a deux par siècle, et rencontre Ramuse. Ramuse est tout de suite fasciné par cet homme qui est russe, qui lui est complètement étranger, qui est complètement exotique. Et tous les deux vont dire, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas d'argent, nos œuvres ne sont plus jouées, plus lues, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut faire simple, il faut faire direct, il faut faire populaire, mais pas populaire bête. Il faut faire quelque chose qui soit créatif à partir du populaire. Et Stravinsky, de son côté, rédige toute une quantité de chansons russes de son enfance, des chansons de nourrice, des choses comme ça, dont il demande à Ramuse de faire des traductions. Alors là, Ramuse a des pages merveilleuses sur la difficulté de faire une traduction avec l'accent sur le « i » plutôt que sur le « a », etc. etc.
C'est absolument... Il parlait russe ? Ramuse parlait russe ?
Pas du tout, justement. Mais Stravinsky lui expliquait ce qu'il fallait faire, et alors attention, là je veux un « a ». Bon. Et c'est admirable, ces pages, parce que c'est unique, on voit de très grands artistes, extrêmement précis, qui souffrent, mais qui obtiennent un résultat phénoménal.
Angelin Preljocage, vous avez un lien très fort à Stravinsky. Vous avez monté plusieurs de ses ballets et en 93, vous disiez même lors d'une émission que Stravinsky venait vous voir tous les matins.
Oui, j'étais assez habité par Stravinsky pendant longtemps, mais il continue à me rendre visite, mais un peu plus rarement. C'est peut-être un lien archaïque qui est lié à mes origines, peut-être de l'Est, des montagnes du Balkan. J'ai eu la chance très tôt dans mon parcours d'être convié à une création sur les noces de Stravinsky, que je connaissais pas curieusement, les noces. Et quand j'ai découvert cette musique, j'étais extrêmement troublé. D'abord parce que il y a une sorte de violence qui est curieuse quand on évoque des noces, mais en fait dans laquelle je me retrouvais parce que les mariages dans mon pays d'origine, qui est l'Albanie, sont conçus comme un rituel de rapt, de kidnapping. Donc la famille du marié vient et elle tire des coups de feu, et la famille emporte la mariée comme pour signifier qu'il la capturait pour l'amener au jeune prétendant, au jeune mari en fait. Et donc il y a une violence qui est stylisée dans ce rituel de mariage et qu'on retrouve, je trouve, dans cette musique de Stravinsky, des noces. Ouais.
Alors, noces, c'est un nouveau rituel primitif, à savoir celui du sacre, mais transposé dans les temps récents, à savoir les noces villageoises. Et les noces villageoises, il y a une quantité de rites très précis, on coupe les nattes de la mariée, on la promène sur un chariot, le marié vient de son côté, on chante, on tape dans ses mains, etc. Et tout ça est traduit par un langage presque exclusivement rythmique, et on ne jouera que sur des timbres secs.
On voit bien dans la partition que là où il y a des petits roulements de tambour, il y a des mots et des où il y a des R qui sont roulés. Comme par exemple, il y a des moments où ils disent « ras, ras » et c'est accompagné par des petites percussions qui font le « ra, ra ». Et donc c'est très très curieux parce que on voit bien que Stravinsky a ciselé vraiment comme une dentelle cette musique. Et ce qui est curieux, c'est qu'au départ, moi j'avais une sensation très chaotique à l'audition de cette musique. Et en fait, quand j'ai commencé à rentrer, à travailler dans la partition, je me suis rendu compte que c'est construit comme une cathédrale en fait.
Des cathédrales de rythme avec des pleins, des déliés, des empoignades et des passages de répit. Et cette fin magnifique avec ces cloches qui s'en vont, avec les mariés qui s'en vont dans l'éternité. Mais justement, toute cette conception n'est pas du tout ni pittoresque ni sentimentale. Là, je dirais strictement intellectuelle, strictement cérébrale. C'est une construction de rythme absolument prodigieuse sur une donnée réaliste.
Nous avons lié connaissance devant les choses et par les choses. Je ne me souviens plus du tout ce qui fut l'objet de la conversation. Ce dont je me souviens très bien, par contre, c'est de cette parfaite entente préliminaire dont le pain et le vin d'ici furent l'occasion. J'ai pu voir tout de suite, par exemple, Stravinsky, que vous aimiez comme moi le pain quand il est bon, le vin quand il est bon. Ici commence votre personne et du même coup commence votre art, c'est-à-dire vous tout entier. je me suis acheminé à cette connaissance dite intérieure par le plus extérieur, le plus terrestre des chemins. Aucune discussion artistique ou esthétique, si je me rappelle bien. Mais je revois votre sourire devant le verre plein, le pain qu'on apportait, la chopine fédérale. Je vous revois prendre votre couteau et le geste net, décisif, que vous aviez pour séparer de sa croûte la belle pâte mi-dure du fromage. J'ai lié connaissance avec vous dans et par l'espèce du plaisir que je vous voyais prendre aux choses, et les plus humbles, comme on dit, et en tout cas, les plus élémentaires. Charles Ferdinand Ramu.
Ramu, c'est vraiment devenu un ami intime de Stravinsky quand ils ont travaillé ensemble sur différentes œuvres, à partir des Noces jusqu'à l'Histoire du soldat, donc dans les années 10 en Suisse, quand Stravinsky se retrouve isolé à cause de la Première Guerre mondiale. Mais après ça, ils n'ont plus aucun rapport. D'ailleurs, Ramu, il s'en plaint pas, mais on sent, quand il écrit ses souvenirs, c'est 10 ans après l'Histoire du soldat, et on sent qu'il n'y a plus rien déjà entre eux. Ils échangent quelques lettres, et puis bon, voilà, c'est fini.
À ce moment, entre un homme qui a dit à Joseph, « Salut, toi, quand même on se connaît pas, mais c'est que moi aussi j'ai été soldat, c'est pourquoi je t'appelle collègue. »
Ramu dit son histoire du soldat.
« Et quand je t'ai vu entrer, je me suis dit, allons lui parler, il n'a pas l'air tant content, je me suis dit, essayons, il sait pas que faire, c'est peut-être pour lui une bonne occasion, qu'en penses-tu ? La fille du roi. »
Ça vaut la peine d'essayer, rien n'empêche qu'elle soit à toi, parce que moi, vois-tu, moi, je suis déjà marié, mais toi, tu as ta liberté, tu essayes, ça ne coûte rien. Tu viens, tu dis, je suis soldat médecin. Le roi te laisse rentrer, médecin, c'est tout ce qu'on veut, même si tu ne réussis pas, ça vaut le coup.
Ce qu'il faut voir dans l'histoire du soldat, c'est que premièrement, c'est pas chanté. Ce sont des musiques à part, qui très rarement se superposent au texte. Et alors, à partir de là, Ramuse fait un texte qui est un de ses plus beaux. Dieu sait si on a dit du mal, mais Dieu sait si actuellement les acteurs ont bien du mal à le dire d'une façon convaincante. Mais quand c'est bien dit, l'histoire du soldat, c'est pareil. On est pétrifié et d'admiration et d'émotion, parce qu'à la fin, on est complètement effrayé de ce pauvre soldat qui a été embobiné par le diable avec la musique démoniaque que Stravinsky met autour. C'est un de leurs chefs-d'œuvre mutuels, enfin aussi bien l'un que l'autre.
Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une thématique de la foire, du tréteau, qui se retrouverait par rapport à Petrouchka?
Il y a ça, il y a la thématique de la foire. Peu après, d'ailleurs, le groupe des Six français va également exalter ce style de musique immédiat, spontané, populaire. Bien sûr, il y a ça, mais accommodé quand même aux nécessités de l'époque, ce qui n'est pas le cas de Petrouchka.
Il était en Suisse. Il était en Suisse avec Ramu, où il a composé l'Histoire du soldat. Et quand Stravinsky est arrivé à Paris, on venait de donner Parade de Cocteau, Picasso et Satie. Et à ce moment-là, il y a eu, si j'ose dire, confrontation d'esthétique. Et pour moi, il n'est pas douteux que Stravinsky, qui arrivait à Paris avec son bagage sublime, mais sauvage, c'est-à-dire les Noces, a eu un choc plutôt intellectuel de ce qui se passait à Paris.
Mais c'est ce que dit Poulenc qui est tellement exact,
ah, oui,
qu'il y a eu l'ouragan, la bourrasque du sacre, et qu'ensuite Stravinsky s'est montré plus royaliste que le roi. Enfin, ses œuvres sont latinisées à un point,
oui,
extrême.
One, two. Forte, more, forte, more staccato. More character. One, two, three, four. One.
Stravinsky, moi, ça me disait, moi, ça m'intéressait pas. Il était assez sévère, d'ailleurs, pour les membres du groupe des Six. Non pas qu'il trouvait que c'était de mauvais musiciens, mais c'était une musique qui ne l'intéressait pas. D'ailleurs, il faut dire qu'une chose, c'est qu'après la guerre de 14-18, Stravinsky va être extrêmement critique pour la musique française, Ravel en tête, qui va dire carrément, la musique de Ravel ne m'intéresse plus du tout. C'était pas sa voix c'était de faire cette espèce de copie géniale et fracassante dans un style 20e siècle de tout ce qu'on a soi-disant adoré, généralement pour des raisons sentimentales. Et lui, il exclut cette sentimentalité et met l'intelligence. Quand on écoute Stravinsky, on apprend la musique, on apprend à écouter aussi bien Beethoven que Mozart, etc., beaucoup mieux, parce qu'il décortique la substance, les formules, les combinaisons grammaticales, je dirais, de la musique classique, et il en fait autre chose. Il y a une espèce de jeu de mécano perpétuel chez Stravinsky, qui fait qu'avec les mêmes éléments parfois, regardez Puccinella, il fait une musique qui ne peut être que de lui.
Il arrive en France, donc c'est 1920, il est dans une pleine période de questionnement. Il avait certainement fait le tour de ses citations du folklore, du néo-folklore, comme dans L'Histoire du soldat. Il fallait qu'il trouve autre chose, et là on constate qu'il y a une série d'œuvres purement expérimentales, et il finit par se trouver avec d'abord Puccinella, et puis ce système qu'on aura appelé néoclassique, qui était dans l'air du temps, évidemment, hein. Mais dont il deviendra vite le porte-drapeau, et certainement le meilleur compositeur.
Moi, j'ai une autre définition du néoclassicisme. C'est une cure d'amaigrissement par rapport à la surcharge orchestrale et harmonique des œuvres précédentes. C'est-à-dire qu'on élague, on aère, on réduit, on rend le discours plus intelligible, les harmonies à la fois pimentées mais quand même très structurées tonalement, la durée plus réduite. Donc c'est absolument la cure de maigrissement salutaire.
Enfin, ce qui l'intéresse en tout cas quand il commence une œuvre, il l'a dit à plusieurs reprises et on peut le croire sincère, c'est de créer un objet artisanal parfait. Ça, je pense que c'est vraiment au jour le jour, ce qui le pousse à travailler très régulièrement. D'ailleurs, il travaille vraiment tous les matins. Le soir, il orchestre. Le matin, il réalise le travail créateur. Il attend que l'inspiration vienne, en gros.
Alors, quand il orchestrait, il aimait beaucoup être entouré. Il fallait qu'on soit là, lui faire de la lecture, par exemple. Il adorait ça. Alors, combien de livres n'ai-je pas lu avec lui, en lui lisant, n'est-ce pas, pendant les soirées. Et le matin, c'était la composition.
Donc, il avait cette faculté de se dédoubler complètement.
Ah oui, pendant qu'il l'orchestrait. Mais quand il composait, alors c'était le moindre bruit était pour lui quelque chose de terrible. Alors,
Donc, il cherche d'abord l'œuvre parfaite, c'est la première chose. Et ensuite, il cherche une espèce de flux évolutif au sein de sa propre œuvre. Je pense que Stravinsky, c'est un des musiciens les plus conscients de l'évolution de son œuvre et de son esthétique. Tout ça avec une volonté consciente et scrutée au jour le jour, interrogée par lui-même, sur lui-même.
Pierre Pinet, si on prend le timbre chez Stravinsky et le timbre chez Debussy ou le timbre chez Schoenberg, pour prendre trois contemporains, quelle est la marque de fabrique de Stravinsky pour vous ?
Je pense que Stravinsky aurait beaucoup plus à voir dans ce sens-là avec Webern d'une part et Varèse d'autre part. C'est-à-dire que le son en lui-même, le timbre, la facture, le paramètre timbre du son est en lui-même source d'expression, d'auto-expression. on prend la phrase musicale dans son entier. On ne peut pas analyser de façon séparée une évolution mélodique et un timbre instrumental. On ne peut pas séparer ce timbre avec la notion de rythme ou de geste. Le son que vous obtenez avec des tirés répétés au talon sur une corde donne un son qui ne peut pas être transcrit par autre chose. Ou alors, vous donnez à entendre autre chose.
Sans aucun doute, Stravinsky portait en lui la blessure de son émigration, comme tous les autres. Sans aucun doute, son évolution musicale aurait pris un chemin différent s'il avait pu rester là où il était né. En effet, le commencement de son voyage à travers l'histoire de la musique coïncide à peu près avec le moment où son pays natal n'existe plus pour lui. Ayant compris qu'aucun autre pays ne peut le remplacer, il trouve sa seule patrie en musique. Ce n'est pas de ma part une jolie tournure lyrique. Je le pense, on ne peut plus concrètement. Sa seule patrie, son seul chez-soi, c'était la musique. Toute la musique de tous les musiciens, l'histoire de la musique. C'est là qu'il a décidé d'habiter. Milan Kundera, Les Testaments trahis.
André Lichke, après la guerre, Stravinsky s'installe, il va avoir une vie assez itinérante finalement, dans le Midi d'abord.
C'est là d'ailleurs qu'il rencontre un prêtre, le père Nicolas Podesserf, qui va le faire revenir à la foi religieuse. Lui qui pendant longtemps s'est plutôt défini comme indifférent à la religion, et c'est très étrange, vraiment, ça c'est un des paradoxes du personnage, qu'on ne classerait pas véritablement comme un modèle de christianisme, compte tenu de sa vie en général, et en particulier de son attachement à l'argent, cette pingrerie, cette avarice qui a toujours caractérisé Stravinsky. Et voilà, c'est cet homme calculateur, parce que jusqu'à la mesquinerie, qui est pris d'une véritable bouffée religieuse. Et là, alors ça, c'est très russe. Cette espèce de conversion, ça, extatique. Quand on lit une lettre de Stravinsky à Diaghilev, alors que les lettres précédentes étaient plutôt des comptes d'épicier, tu me dois tant d'argent pour telle représentation, là, il lui écrit qu'il va recommencer à communier, dit pour un grand besoin spirituel, et il lui dit: je te demande de pardonner les offenses que j'ai pu te causer au cours de toutes nos années de collaboration. Vraiment quelque chose qu'on ne s'attendrait pas du tout à trouver sous la plume de Stravinsky, et pourtant voilà. Donc Stravinsky redevient un chrétien, mais avec quand même ce paradoxe, et là en revanche il se plutôt démarque de la tradition russe. Généralement, les Russes, quand ils sont religieux, restent très attachés à l'orthodoxie. Ou alors, s'ils cherchent des alternatives, c'est plutôt du côté ou des religions orientales ou de doctrines comme la théosophie et l'anthroposophie, donc doctrines un peu ésotériques. Stravinsky, sans renier l'orthodoxie, est attiré par le catholicisme. Il est fasciné par les cathédrales qu'il a visitées en Italie, et il trouve que le catholicisme est une religion plus objective que l'orthodoxie, et le catholicisme l'impressionne par cette grandeur impassible, comme il dit. Il y trouve cette rigueur dont il a besoin, et qui fait aussi partie de lui, de sa psychologie.
Parmi les œuvres religieuses, il y en a une qui vous tient particulièrement à cœur, André Lichke, c'est la messe.
Je crois que c'est une des œuvres les plus accomplies du Stravinsky de la seconde période. C'est une œuvre écrite aux États-Unis, donc au milieu des années 40, elle a été achevée en 48. Une œuvre brève, Stravinsky écrit majoritairement dans des œuvres courtes, entre 15-20 minutes. La messe dure 17-18 minutes à peu près, pour voix et instruments avant, ensemble d'instruments avant.
Avec un effectif très particulier.
Un effectif particulier, bois et cuivre. Stravinsky a toujours eu une prédilection pour les instruments avant, du fait de cette sonorité directe, sans le vibrato des cordes, sans laisser de place à l'émotion sensuelle. Il y a de l'incantation, des mélopées incantatoires, des exclamations, en même temps une sorte de regard sur la polyphonie franco-flamande, donc la polyphonie de la Renaissance, à laquelle Stravinsky s'est beaucoup intéressé. C'est une œuvre très complète, justement à la fois très riche, très vraie. À mon sens, l'une des œuvres, je crois, les plus achevées, les plus homogènes et les plus parlantes du point de vue de l'expression du sacré que Stravinsky a jamais écrite.
La première manifestation contre Stravinsky a été au concert de la Pléiade.
Pierre Boulez.
Les concerts de la Pléiade étaient des concerts organisés par André Scheffner. Et dans ce concert, je ne me rappelle pas du tout du reste du programme, mais il y avait une œuvre de Dalla Piccola. Et puis, une œuvre de Stravinsky. Je ne me souviens plus si c'était les danses concertantes ou quelque chose comme ça. Alors, pour vraiment manifester notre goût et notre choix, nous avons fait un triomphe à Dalla Piccola qui ne le méritait pas. Du reste, c'était une œuvre de 1937 assez anodine, finalement. Et puis, on a manifesté très violemment contre Stravinsky, ce qu'il ne méritait pas non plus, parce que c'est une œuvre anodine aussi et qui ne méritait pas une telle fureur.
Mais, demandera-t-on dans ces conditions, où est le vrai Stravinsky? La réponse est partout. Que l'on n'adhère pas à telle ou telle œuvre est légitime, et la période culturelle dans laquelle s'engage le Stravinsky français n'appelle certes pas l'attachement sans réserve. On peut ainsi détester le baiser de la fée, s'ennuyer aux danses concertantes au nom d'affinité personnelle, d'un refus de jouer le jeu du sujet. Mais par-delà nos goûts et dégoûts, demandons-nous ce que vaut la pureté en art et ce que vaut au monde la censure exercée en son nom. André Boukourechliev, Igor Stravinsky.
Spectateurs, vous allez entendre une version latine d'Édipe au roi et voir des tableaux vivants qui ne correspondent pas aux paroles. Afin de vous épargner tout effort d'oreille et de mémoire, je vous rappellerai au fur et à mesure le drame de Sophocle.
Cocteau, toute sa vie, avait le génie de se mettre là où il faut et de se faire mousser. Ce qui, par principe, ne pouvait pas marcher avec Stravinsky. Mais Cocteau était très obstiné. Ce qui fait que Cocteau a couru après Stravinsky, mais pendant des années, il y a eu un projet tout de suite pendant la guerre qui n'a pas abouti, qui s'appelait David, sauf erreur, un projet de ballet. Enfin, il y a eu 36 coups fourrés qui ont tourné court. Et puis finalement, il a fini par le coincer et il y a eu du Putrex. Il n'y a eu que ça, mais il y a eu ça.
Mais qu'est-ce qui, dans ces thèmes antiques, pouvait...
Alors l'antiquité, je crois que le côté antique s'en fichait complètement. La preuve, c'est que dans Oedipe ou Rex, si j'y cite plus ou moins Funiculi, Funicula, c'est vous dire à quel point c'est pas de faire antique, c'est de faire du Stravinsky. Chez quelqu'un comme Valéry, chez Cocteau, chez tous ces gens-là, il y a vraiment un essai de faire revivre l'antique. Je ne crois pas que ça soit la bonne solution pour apprécier Oedipe ou Rex, par exemple.
Il m'avait beaucoup étonné en me disant « Je voudrais un oratorio en latin ». Je lui ai dit « Pourquoi ?» puisque c'est un drame grec. Il m'avait dit « Parce que je trouve que le latin est une langue commode pour les chanteurs, c'est une langue d'église, c'est une espèce de grand oratorio et nous n'aurons pas l'ennui des traductions ». Et évidemment, ça a stupéfait un public qui était habitué à la foire de Nijni Novgorod, des ballets russes. Ce public a vu des dames et des messieurs en noir sur une estrade et qui commençaient à chanter en latin. Évidemment, le public a fait une drôle de tête.
Comme la création est un échec patent, il faut que Stravinsky trouve des boucs émissaires. Et là, évidemment, Cocteau est un bouc émissaire facile. Et l'amitié qu'il pouvait avoir pour lui, très étrange quand même, hein, de dire du mal comme ça de quelqu'un avec qui on vient de collaborer pendant 10 ans. Ils se remettent, ils se côtoient jusqu'à la fin de la vie de Stravinsky. Quand Stravinsky vient à Paris, il voit Cocteau régulièrement. Et ils ont fait enfin Oedipe avec Cocteau comme narrateur. Parce que Cocteau a attendu 30 ans quand même hein, pour ça. Et puis... on voit à la lecture du journal de Cocteau que les rapports étaient quand même très difficiles.
Stravinsky était un homme...
Le comédien Pierre Bertin.
Très curieux à voir vivre.
Quand il répétait, par exemple, une de ses œuvres, il ne mangeait pas, n'est-ce pas, avant la répétition, parce qu'il disait, je ne pourrais pas travailler en ayant mangé, comme tous les artistes d'ailleurs. Mais alors, après, il se rattrapait. C'était la soupe au fromage, mais alors une énorme soupe au fromage bouillante, autour de laquelle il avalait alors des verres de vodka, comme un Russe sait en boire.
Marcel Marnat, on peut s'arrêter un peu sur l'homme Stravinsky, justement son caractère, son charme, son rapport aux femmes.
Stravinsky, il faut en parler, était un homme extrêmement laid. Et tout le monde a pu témoigner que malgré qu'il compensait cette laideur, moi je l'ai aperçu qu'une fois quand il est venu jouer traîné à Paris, on avait l'impression d'une grenouille dressée sur ses pattes arrière. Bon, il avait 75 ans, mais bon. Mais il compensait cette laideur par le fameux charme slave, qui paraît-il était absolument à couper au couteau. Et donc Stravinsky a eu une carrière mondaine assez surprenante, dans la mesure où les gens se moquaient de lui, trouvaient qu'il s'habillait d'une manière invraisemblable, des costumes à carreaux, des gourmettes, des guêtres, etc. Enfin, une espèce de luxe de parvenu assez tapageur, assez vulgaire. Mais c'était Stravinsky, son intelligence, sa drôlerie, car il avait beaucoup d'esprit, le fait qu'il parlait un français assez précis, qu'il savait jouer de son accent russe et de tout ça très bien. Donc, Stravinsky a toujours mis tout le monde dans sa poche. Et il y a une chose, vous faisiez allusion aux femmes. Stravinsky n'était pas, contrairement à beaucoup d'artistes de sa génération, n'était pas un coureur, disons. Stravinsky a eu des aventures spectaculaires, mais c'était pas l'essentiel de son existence. Et alors, bon, il y a une liaison célèbre. Il n'y a pas longtemps qu'on en parle, d'ailleurs. Il y a peut-être seulement 10, 12 ans, 15 ans, avec Coco Chanel, qui simplement avait protégé certaines de ses entreprises et financé certains de ses spectacles. Il était marié, il avait 4 enfants, dont 2 fils, un qui a été peintre, qui est mort récemment, d'ailleurs, Théodore, et l'autre qui était pianiste. Bizarrement, ses filles, on parle très peu. Bon, sa femme est morte, sauf erreur, en 1939. Et Stravinsky, à la mort de sa femme, s'est couché par terre pendant 3-4 jours, tout volet fermé, ne mangeant plus rien, etc. Et au 5e jour, il s'est levé, et il est allé voir Vera Sudeikin, qui était, disons, son ami, et ils se sont mariés. Ils ne sont pas mariés, ils se sont mis ensemble. Le mariage est venu plus tard, en Amérique. Et puis voilà, c'était réglé. Ça, c'est typique de Stravinsky. Les choses, on fait les choses, on les fait bien, et quand c'est fait. On passe à autre chose. Bon, là-dessus arrive la guerre. Comme vous savez, il se retrouve coincé par la déclaration de guerre de 1939, alors qu'il fait des conférences à Harvard. Il profite de l'occasion, disant, bon, ben, puisque l'Europe recommence, je reste en Amérique. Bon, là-dessus, il a des tas de problèmes parce qu'il n'était pas marié avec Vera. La première œuvre qu'il fait, c'est un tango en Amérique. Et la deuxième ou la troisième, c'est une orchestration assez étrange de l'hymne américain. Alors là-dessus, il y a plusieurs autres œuvres, souvent intéressantes d'ailleurs. Une ode funèbre à la mémoire de Natalie Koussevitzky, des choses comme ça qui sont extrêmement expressives. Et un grand projet avec un grand écrivain, Auden, de faire, là encore, une espèce de parodie au sens fort, non pas une moquerie, mais une parodie, c'est-à-dire quelque chose qui ressemble, mais qui n'est pas tout à fait pareil, d'opéra du 18e, et ça sera bien sûr la carrière du libertin, The Rake's Progress.
Est-ce qu'il y a pour vous, Bertrand Hermoncourt, aussi une dimension ludique, de jeu, avec les stations, avec les modèles? Parce que chez Stravinsky, il y a à la fois du très sérieux, on voit qu'il se prend très au sérieux, et en même temps,
non.
Oui.
Oui, c'est vrai. D'ailleurs, il y a un thème récurrent dans son œuvre, c'est Faust, par exemple. Ou le jeu, enfin, on le voit dans l'histoire du soldat, par exemple. C'est une sorte de Faust en miniature, l'histoire du soldat. Il y a le Rex Progress, qui est une nouvelle variation sur le mythe de la création et de Faust. Il y a également des ballets purement ludiques, hein, comme jeu de cartes. C'est une partie de carte quand même, il faut le faire, afin de faire une œuvre intéressante et même assez géniale par pas mal d'aspects, qui dure plus de 30 minutes sur ce sujet-là et qui tient, c'est, Il n'y a que Stravinsky pour faire ça. Ou Prokofiev, peut-être, mais enfin bon. Là, en l'occurrence, c'est Stravinsky. Et son dernier ballet, Agon, aussi, qui est un jeu totalement virtuel sur les nombres de danseurs, là, pour le coup. Alors, ce sont différentes scènes qui s'imbriquent. Un jeu encore de décaphonique, parce que ça l'a amusé à cette époque-là d'essayer la musique de décaphonique. Et il a créé un ballet sur un livret, lui-même, des décaphoniques, avec des jeux, des duos, des trios, des quatuors. Enfin, on n'a jamais la même formation.
Stravinsky donnait toujours son adresse comme Hollywood, et en fait, il vivait sur la périphérie ouest, entre le quartier d'Hollywood et celui de Beverly Hills. C'est un endroit très agréable. Sa maison se trouvait sur la colline. Elle avait une très belle vue jusqu'au jour où une agence immobilière eut l'idée de construire un gratte-ciel sur le Sunset Boulevard en bas, et il n'y eut plus de vue. Tandis que Schoenberg vivait dans Brentwood.
Schoenberg vivait aussi à Hollywood et ils ne se sont jamais parlé. A noter que Stravinsky n'a jamais parlé non plus avec Rachmaninoff, qui était mort en 1943, mais enfin il était encore vivant quand Stravinsky s'est installé. Mais il ne veut pas voir Schoenberg, mais ce que raconte Kraft, qui fait le va-et-vient entre Schoenberg et Stravinsky, qui habitait à 2 kilomètres l'un de l'autre, ça l'intéresse. Et Kraft, lui montre les partitions de Webern et Stravinsky les étudie. Et c'est donc à partir de 1947, sauf erreur, que Stravinsky dit « Oui, là, il y a une façon de faire qui m'intéresse, on va voir ce que ça va donner. » Et alors, ça, la première apparition de quelque chose d'un peu sériel, sauf erreur, c'est à la fin du Septuor. Et puis, petit à petit, il va s'y mettre de plus en plus. Et puis, la première grande œuvre, ça va être Agon. Et suivi de traînées.
Son cabinet de travail était à l'image de sa précision musicale et linguistique. Une pièce extraordinaire. Le bureau le mieux organisé, peut-être, et le mieux installé que j'ai vu. Concentré sur une surface d'à peine 10 mètres sur 12, il y avait 2 pianos, un piano droit et un piano à queue, 2 tables, un petit bureau élégant et une table de dessinateur, 2 armoires à rayonnage en verre contenant des livres, de la musique et du papier à musique, classés par ordre alphabétique. Entre les 2 pianos, les armoires et les tables, étaient, par-dessus le marché, réparties plusieurs petites tables. Sur l'une, réservée aux fumeurs, étaient posées toutes sortes de paquets de cigarettes, de briquets, de fume-cigarettes et de cure-pipe. 5 ou 6 chaises confortables, et le divan où il faisait sa sieste et où je le vis, allongé sur le dos, ronflant avec douceur et régularité, avec, sur le visage, une expression de colère retenue. Nicolas Nabokov.
La deuxième volte-face de Stravinsky, c'est l'adoption du décaphonisme.
Absolument. Oui, il l'aura...
Aux États-Unis.
Oui, il va très poliment d'ailleurs attendre que Schoenberg meure avant de faire du décaphonisme. Et effectivement, ça détermine toute sa dernière période. C'est un nouveau besoin... d'organisation du matériau, de structurer rigoureusement sa pensée, et aussi encore montrer que même à l'âge plus que mûr, il n'a pas fini d'être un expérimentateur, et surtout qu'il reste lui-même, quel que soit le langage qu'il adopte. Il y a toujours la signature de Stravinsky, que ce soit dans la première période, dans le néoclassicisme ou dans les œuvres de décaphonique.
Claude Samuel.
Moi, je dois dire que j'ai rencontré Stravinsky une fois pour une interview. Il donne des très bonnes interviews, comme vous savez. C'est à l'époque où il est revenu de son voyage en Russie dans les années 70. Et il m'a fait quelques confidences intéressantes, dont celle-ci. Je lui ai posé une question sur le chef d'orchestre. Il m'a dit, il n'y a que les compositeurs qui sont de bons chefs d'orchestre, Richard Strauss, Pierre Boulez et moi. Et il était donc persuadé d'être ce grand chef.
2 octobre 1962, Stravinsky à Moscou dirige Petrouchka dans la grande salle du conservatoire Tchaïkovski.
On a pu dire à la fin de sa vie, effectivement, qu'il était plus capable vraiment de diriger, mais bon.
Jean-Pierre Pinet.
finalement, il a besoin d'un clin d'œil ou d'un mouvement d'épaule pour diriger, tellement les choses sont claires et puis assimilées de la part des musiciens. Et c'est là où on se rend compte que la mesure qui a représenté pour lui, hein, cette écriture très mesurée, la mesure était un élément fondateur aussi de son écriture. Donc battre la mesure, bon, c'est un repère, mais il n'avait plus besoin de ça. Même si son geste parfois est un petit peu désynchronisé ou asynchrone par rapport à la musique qu'on entend, on voit dans un geste particulier ou un regard ou une expression de visage, une ride même parfois, à quel point il vit intensément la musique qu'il dirige et donc son charisme fait le reste et c'est extraordinaire.
Et par ailleurs, lui était vraiment une peau de vache, enfin il n'y a pas d'autre mot, avec tous les confrères, enfin même les plus proches de lui comme Monteux ou Ansermet, avec qui il a fini par se brouiller totalement, sont les deux chefs principaux de ses créations. Dans les entretiens avec Kraft, il y a des passages terribles où il écoute le Sacre du Printemps et il note mesure par mesure toutes les erreurs, les décalages, les fautes d'accent, les fautes d'intention, à tel point les chefs ne comprenaient pas sa musique et jetaient leur ego dans la musique. Enfin, il était très 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 dur avec tous les interprètes.
Sauf Kraft.
Évidemment, puisque Kraft c'était lui, donc Kraft préparait ses concerts.
Mais c'est très bizarre, ce dédoublement de soi à travers Kraft pour la direction d'orchestre.
Moi, je pense qu'il y avait un côté pratique. Hein. Il avait besoin d'un assistant, plein de grands chefs du circuit, hier et aujourd'hui, ont toujours des assistants. Paraît-il, les orchestres, lorsque Stravinsky n'était pas là, jouaient très mal quand Kraft était là pour, pour montrer leur désapprobation déjà du fait que Stravinsky ne soit pas là et puis le fait que Kraft se prenne pour Stravinsky.
Et quand Stravinsky arrivait ?
L'orchestre jouait bien. Parce qu'il avait un charme incroyable et aucune technique de direction, mais une aura simplement hors du commun.
Staline meurt en 1953, les choses s'arrondissent un petit peu, il y a le rapport Khrouchtchev, la déstalinisation. Et Stravinsky décide, pour ses 80 ans, de faire une espèce de pèlerinage dans son pays d'origine et fait donc une énorme tournée en Russie. Bon. On l'a accueilli. Et Stravinsky, ça c'est typique de son culot et de sa morgue, il a fait un numéro invraisemblable à travers toute la Russie, il est allé à Saint-Pétersbourg, il a dirigé à Moscou, enfin dans toutes les grandes villes, son Sacre, qui avait été interdit pendant je ne sais combien d'années en Russie, parce que c'était une musique impérialiste et rétrograde, soi-disant. Il y a l'anecdote célèbre de Krennikov, qui avait été le patron des musiciens russes, qui l'avait traité de tous les noms, et Krennikov a voulu venir lui serrer la main. Et Stravinsky, qui marchait avec une canne, ne lui a pas tendu la main, il a tendu sa canne. Et il y a des photos où on voit Krennikov serrant, non pas la main de Stravinsky, mais le caoutchouc de la canne de Stravinsky. C'est absolument hallucinant.
Une vie, une œuvre, Igor Stravinsky, avec Bertrand Dermoncourt et Marcel Marnat, auteurs d'ouvrages sur Stravinsky, André Lischke, musicologue, Jean-Pierre Pinet, directeur de l'ensemble Stravinsky, Angelin Prejlocage, chorégraphe, et le chef d'orchestre François-Xavier Roth. Avec les voix de Pierre Bertin, Pierre Boulez, Jean Cocteau, Jean-Claude Galota, Ramu, Claude Samuel, Igor et Théodore Stravinsky. Angelin Prejlocage, il y a beaucoup de photos connues de Stravinsky. Si vous deviez en choisir une, qui serait pour vous le portrait le plus approchant de l'image que vous faites du compositeur, serait laquelle ?
Alors c'est celle où il est à son piano, extrêmement graphique là, que j'ai chez moi encadrée et que je regarde régulièrement. C'est une photo en noir et blanc, magnifique, extrêmement graphique, presque Bauhaus en fait. Il y a quelque chose qui évoque déjà sa musique rien qu'en regardant la photo.
Texte lu par Pierre Val, documentation INA Sophie Rielland,
assistante d'émission Laurence Jeunepin. Prise de son Étienne Leroy et Guillaume Ledu. Mixage Olivier Dupré. Une émission de Laetitia Leguet et Jean-Claude Loiseau.
C'était Une vie, une œuvre, une émission proposée par Perrine Kervran avec Claire Poinsignon. Bibliographie, liens, réécoute, podcast, c'est sur la page de l'émission sur le site de France Culture. Retrouvez-nous aussi sur Facebook et Twitter. Et demain, l'autre moitié de la paire, le créateur, l'entrepreneur, l'impresario et l'ami, Serge de Diaghilev.